Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Cécile de Ménibus.
8h49 et comme tous les matins, nous allons répondre à vos questions. Hein. Vous voulez nous appeler, c'est le 0826 300 300. Après des semaines et des semaines de coronavirus, on a toujours l'impression d'avoir fait le tour, mais on n'a pas fait le tour encore. Jean Sibilia est avec nous, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Jean, on parle d'effets secondaires concernant la chloroquine. C'est ce que vient d'annoncer la NSM. Quel type d'effets secondaires on pourrait ressentir?
Alors, il y a d'abord des effets secondaires dans la pratique quotidienne de ces médicaments, hein, que ce soit la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Les premiers méfaits, c'est tout bête, hein, les premiers méfaits, c'est des troubles digestifs. Hein. Quand on prend le médicament, on ne se sent pas très bien. Enfin, c'est ce que nous disent les malades qui en prennent dans d'autres maladies, hein, puisqu'on prescrit ce médicament depuis très 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 longtemps dans des maladies inflammatoires. Donc, c'est d'abord des troubles digestifs, on ne se sent pas très bien. Il y a quelques allergies quand même cutanées, il y a quelques problèmes de ce type-là, donc qui existent, hein, qui sont connus, mais qui sont très très rares. Mais en réalité, le vrai problème dans la maladie Covid, c'est que cette maladie touche le cœur, peut toucher le cœur chez 10, 20, 25% des gens. Or, la chloroquine et l'hydroxychloroquine va aussi se localiser dans le cœur et donc bloquer le circuit électrique du cœur, ce qu'on appelle la conduction électrique dans le cœur, ce qui fait des contractions du cœur, et donc provoquer des allongements, des anomalies, ça fait sauter les fusibles dans le cœur, et évidemment, si vous faites sauter les fusibles, si vous avez un allongement de ces périodes électriques, le cœur peut ou s'emballer ou s'arrêter, et on connaît ces effets qu'on appelle torsade de pointe, hein, qui est des complications cardiaques de la nivaquine, hein, de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Et c'est d'autant plus vrai, c'est ça qui est important à comprendre, que quand vous le donnez à des gens qui n'ont pas d'éléments touchant le cœur, tout se passe bien, mais dans le Covid, comme le Covid lui-même peut toucher le cœur, cet effet secondaire de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine est plus important. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on observe beaucoup plus de choses dans la maladie virale qu'on ne l'observait avant dans les maladies inflammatoires.
Mais est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, qu'il faudrait aller voir un cardiologue avant de prendre de la chloroquine ou l'hydrochloroquine?
Oui, oui, c'est la recommandation, hein. C'est dans ce contexte obligatoire de faire un ECG, d'avoir un avis cardio, de faire un ECG. ECG, c'est électrocardiogramme. En fait, c'est, vous savez, ceux qui l'ont fait le savent très bien. On vous met des petites électrodes sur le thorax et on mesure le courant électrique du cœur et on regarde. Et on peut donc dire si le courant passe bien ou passe moins bien. Donc c'est obligatoire de le faire, hein, dans ce contexte-là. A fortiori, si le Covid touche le cœur. Ce qu'on peut parfaitement mesurer, on a, depuis le début d'ailleurs, on le sait, on mesure dans le sang des éléments qui traduisent l'atteinte du cœur. Et on fait évidemment une échographie du cœur si c'est nécessaire. Donc oui, c'est nécessaire pour éviter des complications qui peuvent être mortelles quand même. La torsade de pointe, si elle n'est pas contrôlée, c'est-à-dire cet emballement électrique du cœur, peut malheureusement provoquer un arrêt cardiaque. C'est très très rare, il faut le reconnaître. Mais il faut en être informé.
Et puis on va revenir sur cette information, hein, des centaines de laboratoires mondiaux aujourd'hui rivalisent pour produire un vaccin, hein, contre le coronavirus. Mais en Chine, des chercheurs affirment avoir mis au point un traitement pour mettre un coup d'arrêt à l'épidémie et sans vaccin. On parle d'anticorps. Est-ce que vous avez vu cette information?
Bien sûr, merci Cécile. Donc notre communication sur l'information marche très bien, donc merci pour cette question. Oui, non, c'est pas du tout nouveau. Hein. En fait, il y a deux façons de lutter contre le virus avec des anticorps. Soit vous les faites faire à l'individu lui-même, ça s'appelle une vaccination, c'est-à-dire vous injectez un bout du virus et puis l'individu va produire des anticorps contre le bout du virus qu'on injecte. Et évidemment, vous en doutez bien, on injecte, et on en a parlé d'ailleurs hier encore avec cette firme américaine qui a découvert une formulation vaccinale avec un bout d'ARN du virus. Donc c'est une façon, on provoque, on injecte quelque chose à l'individu, à l'homme, et l'homme produit ses propres anticorps contre le virus. Donc ça, c'est la stratégie de vaccin. L'autre, c'est simplement, on copie et on produit dans un laboratoire l'anticorps comme celui qui est produit par l'homme. Donc on produit de l'anticorps en flacon et on injecte l'anticorps directement. Alors évidemment, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est un anticorps, vous savez exactement ce qu'il va faire, il n'y a pas de surprise, hein. Alors que si vous vaccinez, le sujet peut ne pas répondre ou répondre différemment. Là, vous injectez la dose d'anticorps que vous voulez. L'ennui, c'est que ce n'est pas l'anticorps du malade. Nous, on utilise ça très largement dans beaucoup de maladies inflammatoires où on injecte des anticorps produits dans des laboratoires et on injecte des anticorps pour bloquer l'inflammation. l'inflammation. Donc c'est bien des anticorps produits artificiellement. Et on a de temps en temps des réactions allergiques, parce que c'est pas l'anticorps.
C'est quoi ça? Oui, des rejets. On peut.
Alors rejet, c'est un. Roger, c'est trop fort, mais en tout cas, une réaction à l'anticorps, en fait. Il peut y avoir une réaction, ou une réaction douce, ou une réaction aiguë. La réaction aiguë, c'est une sorte d'allergie aiguë avec le malade qui ne sent pas bien, la tension qui baisse, c'est très rare, très très rare, mais ça existe. Ou alors des rejets doux, c'est-à-dire votre organisme reconnaît l'anticorps que vous injectez, qui n'est pas le vôtre, hein, par définition, et vous immunisez, ça paraît bizarre, mais nous, on a vu ça beaucoup dans les maladies inflammatoires, vous immunisez contre l'anticorps que vous injectez. Et donc l'anticorps perd son action, voire devient allergisant. Donc très bien, c'est magnifique, mais là aussi, tout ça, ça s'examine, ça s'évalue, ça se teste, avant d'annoncer le scoop. Je regrette beaucoup ces annonces en disant « on a trouvé le traitement ». Oui, peut-être, c'est bien, génial, mais déterminons les choses correctement, on évalue et on voit les bénéfices et les risques à chaque fois, et le plus vite possible, évidemment, pour les gens.
Oui, et puis il y a la question...
Est-ce qu'il est possible ?
Il y a la question aussi parallèlement du vaccin là aux États-Unis avec le labo Mondora, hein, c'est ça ?
Qui semble
s'accélérer, aller plus vite. Vous y croyez là aussi ou pas ?
Alors il y a une restriction quand même importante sur cette affaire.
Ouais.
Oui, on peut y croire parce que je pense que les résultats qu'ils présentent sont très préliminaires. Ouais. Vous avez vu, hein, je crois que c'est quelques personnes qui ont été testées pour l'instant. Hein.
Ouais.
3, 4, 5 personnes, très très peu. Donc attention aussi, il y a des effets d'annonce politique, des effets d'annonce économique derrière. Le laboratoire qui a quadruplé hein, les actions ont quadruplé. Hein, ils ont pris 400%. Donc attention, ça. Scientifiques, on se méfie beaucoup de ce genre de choses. Voilà, première chose. Deuxième chose, la technique utilisée est une technique qui est dans le pipeline, comme on dit depuis très longtemps, pour les stratégies vaccinales. C'est une stratégie ARN. Cette stratégie ARN n'a jamais permis de faire de vaccin. Ça serait un scoop, vous voyez, si cette stratégie permettait de faire un vaccin. Je ne dis pas que c'est pas possible, sinon on le ferait pas, mais aujourd'hui, force est de constater que cette stratégie vaccinale, pour l'instant, n'a jamais produit de vaccin efficace. Alors, c'est pas pour ça que ça ne le fera pas là, parce que la technique, la biotechnologie a beaucoup évolué. Mais prudence là aussi, c'est très préliminaire, c'est nord-américain, c'est américain, même si le PDG est français, ce qui est très bien pour notre pays. Cocorico quand même, mais le PDG est français. Mais c'est un labo américain. Les Américains et le président Trump a besoin de communication autour du sujet. J'ai lu que même la FDA, c'est l'Agence nationale américaine des produits des médicaments, si vous voulez. Hein, c'est l'équivalent de notre agence des médicaments. Elle-même était très prudente. Donc je crois que là, il y a à nouveau un effet d'annonce qui est excessif. C'est très bien, c'est bien de faire de l'information, mais entre information et annonce, il y a une nuance très importante. Là, on est dans de l'information simple, c'est une piste, et il y en a 100 autres, puisqu'il y a 108 autres pistes vaccinales, et on verra quand on aura des résultats sérieux. On ne peut pas les considérer aujourd'hui comme suffisamment avancés pour donner une indication de dire qu'on aura un vaccin à l'automne. Ça, je crois qu'il ne faut surtout pas passer ce message-là, parce qu'on n'en a absolument pas la certitude.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et puis on vous retrouve lundi matin en pleine forme avec nous.
Merci.
Et puis vous continuez bien entendu de nous laisser vos messages et vos questions sur notre compte Solidarité Sud Radio. On revient dans un instant, on parle aux petites entreprises, juste après le flash de 9h.